Oui, bienvenue à Regard Croisé avec Fulgence Blas et
Arlette Farah. Bonjour,
bonjour Arlette. Bonjour Arlette.
Ça va bien?
Oui, ça va bien, ça va bien. Tant qu'on n'est pas sur un lit d'hôpital, bon, ça va bien. Et toi, de ton côté?
Ah bah écoute, ça va bien. J'ai préparé l'émission d'aujourd'hui. On va apprendre plein de choses.
Oui. Alors, on va démarrer pour, comme tu le sais d'habitude, c'est moi, cette semaine, c'est moi qui suis toujours la première des meilleures de l'émission. On va recevoir Claudia Grenier, qui est conseillère d'orientation chez Trajectoire Emploi. Les détails un peu plus tard.
D'accord.
Reste à l'écoute. Arlette, et en deuxième partie d'émission.
En deuxième partie, bien, on va recevoir Louise Véronique Sicotte, notre chroniqueuse cinéma, qui va nous présenter le documentaire Le Dernier Natac. Donc, on en parle en deuxième partie d'émission. Restez avec nous aussi. Et puis là, on
part
musique. En musique.
Comme d'habitude. Avec Nour. Et la pièce s'appelle Narbat.
صباتي وما عنديش تقاشر كانوا غير هذوك اللي بقاولي والان حبيت نحبط في سونتر فيل ونسي كاش ما يحبس لي كاش تاكسي نربط في صباتي وما عنديش تقاشر تبحروا لي كي تحت في الغرقة كانوا غير هذوك اللي بقاولي ودركات غير الفرق في جيبي والان حبيت احبط في صدر ميل ونسي كاش ما يحبس لي كاش تاكسي يا خو اسمح لي والله غير كومبلي ودركات غير الفرق في جيبي يا كل نمشي ابي كيما العاده في العاصمه رجلي لي بابي ما عطاوليش لو فيزا مون عارفين في البلاد بصح كل يوم غير الفرق في جيبي وجعت كرشي وراني جيعان كل شي غالي في هاد البلاد سي دوماج هاد لا بروباغوند مي سي فري غير الفرق في جيبي بابا دا 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 دا
démarrer l'émission en train comme ça avec nous et les titres Narbat. Alors, on a notre invitée, Claudia Grenier, est déjà au téléphone en ligne avec nous, conseillère en orientation chez Trajectoire Emploi et rédactrice de Le Guide Différent et Compétent, publié chez Septembre, éditeur et l'organisme Trajectoire Emploi. Voilà, c'est ça. Moi, je suis bien curieux et les auditeurs aussi sont bien curieux de découvrir qu'est-ce que c'est que Trajectoire Emploi. Et puis, qu'est-ce que c'est que être
bonjour.
Qu'est-ce que c'est que bonjour. Être différent et compétent? Bonjour, Claudia Grenier. Comment allez-vous?
Je vais très bien, merci.
Mais voilà. Alors, voilà. Et oui, on va bien. On va bien. On est bien. Tant qu'on peut avoir nos invités, être en ligne sans aucun problème. Alors, vous allez d'abord nous présenter l'organisme Trajectoire Emploi avant d'aller en profondeur. C'est quoi Trajectoire Emploi?
Trajectoire Emploi, c'est un organisme d'aide à l'emploi situé à Lévis,
oui.
Donc dans Chaudière-Appalaches, sur la rive sud de Québec, et qui offre une multitude de services à la population au niveau de l'employabilité, de l'orientation, la réorientation, l'entrepreneuriat jeunesse également. Donc, c'est pour tout le monde et c'est des services gratuits qui sont offerts.
Oui, oui. Donc, comment dirais-je, après un an après le début de la pandémie, 94% des emplois perdus au Québec ont déjà été récupérés. Les entreprises font donc de nouveau face très rapidement à une importante pénurie de main-d'œuvre. Et puis, dans ce contexte-là, bon, pour ne pas recruter des personnes dites à besoin atypique, ça aussi, vous allez nous expliquer c'est quoi personne à besoin atypique, souvent en marge du marché du travail. Ouais. On va aller tout de suite à la première question. Donc, dites-nous d'abord, qu'est-ce qu'on appelle personne à besoin atypique?
En fait, les personnes à besoin atypique incluent vraiment beaucoup de monde. C'est toutes ces personnes qui ont des difficultés qui peuvent être confrontantes pour une entreprise standard dans leur comportement ou dans les problématiques qu'ils peuvent avoir et donc qui ne rentreront pas forcément dans le moule de l'employé standard. Donc, oui. Défini comme ça, ça peut vouloir dire beaucoup, beaucoup de monde.
Oui, oui, oui. Là, je vais demander tout de suite, mais ça s'adresse à qui? Voilà, c'est ça. Ça s'adresse à beaucoup de monde, mais à qui exactement? Qu'est-ce que c'est que rentrer dans le moule d'une entreprise? Ouais.
Mais c'est répondre quand même assez exactement aux attentes précises de l'employeur au oui. niveau de la façon de faire des tâches, au niveau du respect des conditions de travail.
Oui.
Donc, il y a des personnes pour qui ce n'est pas possible de le faire sans avoir un peu de soutien ou avoir oui. des accommodements pour le faire. Au oui. niveau du lit, par exemple, on a ciblé les problèmes neurodéveloppementaux, par oui. exemple la déficience intellectuelle ou troubles du spectre de l'autisme, entre autres.
Oui.
Sinon, on a aussi les problèmes de santé mentale, puis même les problèmes psychosociaux.
C'est très large.
C'est très, très large. Puis en fait, oui. ça pourrait englober aussi bien d'autres personnes. On s'est limité à ce que nous, on accompagnait le plus souvent.
Oui, oui, oui. Mais ce ne sont pas ces personnes-là seulement que vous accompagnez aussi les employeurs.
Oui, effectivement. Nos services sont essentiellement pour l'individu, mais ça va de soi qu'en les aidant à s'intégrer,
oui.
On est là aussi pour l'employeur. On peut oui. répondre aussi à ses questions, à ses besoins. On a quand même toute l'expertise pour ça. Puis oui, chez Trajectoire Emploi, on a des conseillers que c'est leur emploi d'accompagner oui. le client dans son intégration.
Oui.
Donc, il peut être là même au niveau de l'entrevue.
Oui, oui.
Pour faciliter
oui.
une entrevue, par exemple. Déjà, ça, ce serait un moyen concret
oui.
que l'employeur sollicite des conseillers d'organismes en employabilité à participer oui. Pour faciliter la première communication, par exemple.
Oui, 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 oui. Bravo pour ce beau travail que vous faites là. Bon, quels sont les enjeux vécus par les personnes à besoin atypique en emploi?
Le fait de d'emblée d'être rejeté parce que les employeurs ne verront pas au-delà de la problématique puis des investissements que ça va avoir, ce que ça va impliquer. Ils ne oui. voient pas au-delà de ça où il y a le potentiel de la personne.
Oui.
Fait que souvent, les personnes se voient être définies comme étant plus des problèmes que des compétences. Parce que ça, c'est vraiment un premier enjeu qui fait oui. qu'ils ont beaucoup de difficultés à s'intégrer. Puis bon, mais elles sont amenées à croire quand même que, effectivement,
quand j'ai vu ça,
ce sont elles le problème.
Besoin atypique. Ouais, oh, ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une approche inclusive? Cela se traduit comment? Voilà, comment les employeurs doivent se comporter vis-à-vis de ces personnes-là?
En fait, une approche inclusive, de par définition, bon, c'est pour inclure vraiment
bien,
tout le monde.
Ou bien vous, d'abord, quand vous rencontrez ces personnes-là, comment ça se passe? Voilà.
Quand on rencontre les clients à besoin atypique?
Oui.
D'accord. Bien, c'est sûr que nous, de notre côté, au niveau de la recherche d'emploi, on s'ajuste à ces personnes-là, à leurs oui. besoins. On est un soutien, puis on essaie oui. de les accompagner dans la réalité du marché du travail,
oui.
De les sensibiliser aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Puis, mais ça, elles le savent déjà mieux que nous.
Oui.
Et aussi, de travailler avec l'employeur pour lui sensibiliser.
Oui. Oui, 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 de façon de mieux les intégrer dans le milieu du travail. Et puis, des bénéfices de faire appel à cette main d'œuvre aussi qualifiée, parce qu'ils sont des personnes aussi qualifiées, mais qui ont souvent de la difficulté à se faire encadrer et à trouver l'emploi qui correspond à leur qualification ou bien à ce qu'ils veulent faire.
Voilà, oui, tout à fait, parce que ce n'est pas nécessairement des personnes qui ne sont pas qualifiées. Ils peuvent avoir de très grandes qualifications. Puis les avantages pour les employeurs, là, c'est d'avoir accès à ces compétences-là qui sont réelles.
Oui.
Puis en temps de pénurie de main-d'œuvre, on s'entend que c'est très recherché, la compétence.
Oui, oui, okay. Oui, oui. Voilà, d'accord, ok. On va faire une petite pause musicale et puis on va continuer à la suite de la conversation va être après la petite pause musicale parce qu'il y a d'autres choses qu'on aimerait bien savoir, que les auditeurs qui nous écoutent aimeraient bien savoir. Moi, je suis très, très, très impressionné par ce que vous faites comme travail, là.
Ah, c'est un petit bravo.
De rien, et puis à tout à l'heure. On va en musique.
Oui.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Canta de novo.
Em cima do morro, sambando no asfalto.
Eu canto samba enredo, o sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo é vendo o sol nascer quadrado.
Davola, canta, canta, mina, gente. Voilà. On a
très dansant.
Ouais, c'est très dansant. C'est très dansant. J'aime bien ce genre de tube-là aussi. Voilà. On va...
oui, je peux demander quelque chose à Claudia?
Oui,
oui, vas-y. Absolument.
Quand vous parliez tout à l'heure des difficultés qu'il pouvait y avoir quand vous allez placer certaines personnes, donc quelles sont les difficultés les plus souvent rencontrées? C'est quoi en fait? En général,
il y en a vraiment
de toutes sortes. Je me doute.
Ça peut être un problème d'absentéisme ou de ponctualité.
Ah,
pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement l'habitude, qui a ça pourrait être n'importe quel trouble, un trouble d'anxiété, peut amener la personne à être en retard parce que elle a peur de mal faire à son travail. Alors, c'est un peu de l'autodestruction, mais ça va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On va voir l'absence et se dire, mais il y a un manque de sérieux, un manque de professionnalisme, on veut pas ça, mais au-delà de ça,
c'est pas ça.
C'est peut-être juste d'adapter, par exemple. Ça oui. peut être une des problématiques. Ça peut, ouais, l'absentéisme puis peut expliquer beaucoup de choses ou d'aller trop vite. D'être quelqu'un qui est en emploi, qui fait ses tâches vraiment très, très vite et qui se brûle au bout de 3 heures parce que là, il n'y a plus d'énergie ou qui va, ça va créer une dynamique particulière dans l'équipe. Mais on ne sait pas pourquoi il va très vite. Ça se peut qu'il y ait un déficit d'attention avec hyperactivité. Ça l'amène
parce qu'il a peur, peut-être qu'il a peur de se faire juger. La personne a peur de se faire juger pour dire qu'elle travaille trop lentement ou bien quelque chose comme ça. C'est possible.
Ben, c'est possible aussi. Sachant qu'elle vit, par exemple, une difficulté et qu'elle voudrait pas se sentir différent ou autrement, va essayer de compenser. Ça peut juste ne pas être facilitant, en fait, pour elle.
Oui.
Je comprends. Oui. Merci d'avoir répondu à ma question.
Et quand les gens, par exemple, avec l'absentéisme ou bien le retard, comment vous arrivez à les booster, vous, de votre côté? Si l'employeur vous rend compte, comment vous arrivez à redonner confiance à cette personne que vous avez fait engager?
Donc, cette personne-là qui a perdu son emploi, qui revient chez nous et qui est démoralisée, comment est-ce qu'on réagit?
Voilà, ou bien elle n'a pas encore perdu, ou bien simplement l'employeur vous contacte pour vous dire telle personne qui a été engagée, qu'on a engagée à travers vous, s'absente ou bien arrive souvent en retard. Comment vous arrivez à remettre cette personne sur les rails? Votre approche personnelle?
Mais déjà que l'employeur ait le souci de nous contacter pour avoir du soutien, c'est parfait. Par la suite, c'est sûr, c'est de voir avec la personne, puis de l'amener dans notre milieu, dans un environnement qui est sécuritaire, où elle peut avoir confiance, puis essayer de valider avec elle, pousser plus loin. Est-ce qu'il y a une raison qui fait qu'elle est en retard et qu'elle ne correspond pas, puis qu'elle n'y arrive pas? Et dans la mesure où la personne s'ouvre, parce qu'il y a quand même une part de responsabilité pour ces personnes-là aussi, évidemment.
C'est
donc
ça.
Qu'elle s'ouvre, qu'elle nomme, il y a des choses qui ne conviennent pas. Je ne peux pas travailler, par exemple, avec autant de stimulation sensorielle. Des personnes que ça va être ça. Et qu'ils n'arrivent pas à le dire, ils ne veulent pas le dire, ils ne veulent pas être ostracisés.
Oui, c'est ça, la peur d'être ostracisé. Oui.
Alors, de découvrir pourquoi, si on peut arriver avec la personne à cibler pourquoi, et de ramener à l'employeur pour qu'il comprenne, écoutez, c'est pas une mauvaise volonté, c'est que dans son contexte, il y aurait besoin de coquilles super puissantes pour les oreilles, pour limiter le bruit, par exemple, parce que c'est un grave irritant. Ça pourrait être un exemple.
Oui.
Donc, dans ce temps-là, c'est le meilleur des cas, parce que tout le monde s'entend.
Est-ce que les employés sont sensibles à votre démarche?
Oui. En faisant la rédaction du livre, les employeurs que j'ai rencontrés ont cette ouverture-là. C'est pas des bêtes, c'est pas des monstres. Ils veulent être ouverts, mais souvent, ils vont manquer d'outils pour le faire. Donc, il y en a plusieurs qui m'ont dit, non, mais j'ai voulu ouvrir ma porte à une personne qui avait plus de difficultés. Je me suis dit, tout le monde a droit à sa chance. Mais Colin, il ne rentrait pas, justement, dans mes exigences standards. Ah. Alors là, il y a un problème de compréhension. Il ne peut pas rentrer dans les exigences standards. Il faut s'adapter. Mais là, l'employeur, lui, voit un échec, la personne est en échec aussi, et l'employeur se dit, j'ai essayé, ça n'a pas marché, et je suis échaudé, j'ai perdu mon temps. Donc, ils peuvent avoir cette réticence-là, mais c'est parce qu'il n'y avait pas les bons outils. Puis mon guide, c'est ça, c'est d'outiller les employeurs en donnant beaucoup d'exemples, puis en le disant qu'en fait, c'est la créativité des personnes impliquées qui va être la limite.
Oui, leur donner la connaissance, quoi, pour qu'ils soient pas. Pour pas couper le lien.
Ben effectivement. Oui. Effectivement, oui. De dire c'est possible et ça n'engage pas nécessairement plus de temps ou d'argent ou d'énergie. Il faut juste le voir différemment. Il faut juste voir ça. Que le temps qu'on va consacrer dès le départ à comprendre c'est quoi les besoins de la personne, à voir si on peut y répondre, et puis par la suite, rendre cette personne-là dans son environnement confortable.
Efficace. C'est ça, en gros.
Ben, on vient d'atteindre, souvent les personnes dans les bonnes conditions vont être aussi efficaces que n'importe qui.
Oui.
Donc, ça aura juste pris plus de temps au départ.
Il ne faut pas les sous-estimer, voilà. Il ne faut pas les sous-estimer.
Ben non, pas du tout.
Voilà. Claudia, quel a été l'impact de la pandémie sur l'embauche des personnes à besoins atypiques?
Oh là là! En fait, la pandémie a essentiellement eu un mauvais impact pour tout le monde au niveau de l'emploi.
Oui.
Et évidemment, comme ces personnes-là à besoins atypiques se retrouvent souvent en queue de peloton, quand vient le temps de trouver un emploi, ben là, ils ont été encore plus mis à l'écart pendant cette année-là,
plus
où les gens ont perdu leur emploi. Donc, en se mettant encore plus à l'écart, ben là, c'est de perdre le lien avec la routine vers le marché du travail. Et là, ben, ça va être de se reprendre en main maintenant pour recommencer puis avancer vers le marché du travail.
Oui. Alors, je vais vous demander une dernière chose avant de vous remercier encore pour le beau travail que vous faites. Quels sont les bénéfices de recruter cette clientèle, disons, ces personnes à besoins atypiques?
C'est d'avoir accès à des compétences qui sont à la hauteur de n'importe qui si on les met dans les bonnes conditions. Donc, d'emblée, c'est de combler ces postes-là qui sont vides. Puis un poste vide pour un employeur, ça coûte cher. Donc, c'est la possibilité de combler ce poste-là, surtout en temps de pénurie, comme on dit, c'est évidemment le premier avantage. Mais je crois que, et ça, c'est mon rêve le plus cher, de s'ouvrir à une réalité différente, d'avoir vraiment le désir d'être inclusif et d'avoir cette culture d'empathie-là, mais ça va augmenter les chances pour l'employeur de maintenir ses employés en place. Donc, de ne pas avoir trop de roulement de personnel, parce qu'il offre un cadre intéressant pour travailler. Et puis, pour les employés qui sont déjà là, qui vont être plus standards, on va dire, mais de voir leur employeur, voir l'unicité de chaque personne, ben c'est rassurant et c'est très intéressant pour eux aussi. Fait qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de toute l'équipe pour s'ouvrir à d'autres réalités d'employés.
Oui, à d'autres réalités d'employés.
Puis vous créez des belles rencontres aussi? Pardon.
Mais absolument. Mmh. Et je vais le dire, mais vraiment de façon très bienveillante, vous êtes sûrement déjà allé dans une entreprise où il y avait des personnes qui pouvaient avoir une légère déficience ou une trisomie. Mmh. Et c'est des gens qui mettent une bonne humeur et une légèreté dans un endroit. C'est très agréable de travailler avec ces personnes-là.
C'est
très positif.
Chacun de nous a vécu ça au cours de son parcours professionnel. Merci beaucoup, Claudia.
Merci,
Grenier.
En tout cas.
Merci, bravo pour ce beau travail que vous faites là. Belle continuation. Oui, continuez à accompagner ces personnes-là qui souhaitent s'engager dans la réalisation de leur potentiel à différents moments de leur cheminement scolaire et professionnel. Bravo.
Merci.
Et au plaisir. Si vous avez un gros projet qui arrive, là, n'hésitez pas de nous contacter. On sera là pour vous.
Parfait. Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, restez avec nous en deuxième demi-heure. On va parler cinéma. Donc, le dernier Natac. On attend ça avec Louise Véronique Sicotte qu'on retrouve très bientôt. A tout de suite.
Vous écoutez Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
Nous aurons des corbeilles pleines de roses noires pour tuer la haine des territoires coulés dans nos veines et des amours qui valent la peine. Ce qui nous manque, des feux d'argent aux portes des banques, des abattoirs de millionnaires, des réservoirs d'années-lumière.
On vient d'entendre Richard Desjardins qui nous chantait « Nous aurons ». Et nous, nous avons Louise Véronique Sicotte. Bonjour Louise Véronique.
Bonjour Arlette, bonjour Fulgence.
Bonjour Louise Véronique.
Alors Louise Véronique, tu es là pour nous parler du documentaire « Le dernier Natac » qui est fait sur Richard Desjardins.
Oui.
Et la première question qui vient en tête, c'est d'abord à quoi ça fait référence ce titre « Le dernier Natac » ?
Le dernier Natac, c'est en fait, ça fait référence à un personnage d'une chanson de Richard Desjardins, qui s'appelle Natac, justement. Alors, Natac, ça représente en fait le premier humain, le premier autochtone qui aurait traversé le détroit de Bering pour se rendre en Amérique. C'est un découvreur, c'est un courageux, c'est un homme qui a décidé de sortir de son univers pour affronter un autre univers, pour avoir une vie meilleure.
Alors, c'est ça le Natac. Et puis, on peut dire que ben, le dernier Natac, ce serait aussi Richard Desjardins, parce que c'est un guerrier, c'est à sa façon, c'est un, oui. c'est quelqu'un qui ouvre la voie. Hein?
C'est vrai. Alors, oui. Justement, Louise Véronique, dans ce documentaire, pour ceux qui doivent être rares ici, mais qui ne connaîtraient pas encore Richard Desjardins, qu'est-ce qu'on apprend sur lui?
Pour ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux et les oreilles sur Richard Desjardins,
il y en a peu, mais
eh bien, ça sera une façon de le connaître. En fait, ce n'est pas un documentaire sur sa vie, sa carrière, sur la chronologie de son évolution musicale. C'est plus intime. C'est une façon de le connaître d'une autre façon, je dirais.
Chez lui?
Chez lui, dans son territoire, dans sa patrie, en Abitibi, à Rouen, plus exactement, dans sa ville natale. Alors, Richard Desjardins, ben, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un auteur-compositeur qui est vraiment prolifique. Il a 73 ans maintenant. C'est un réalisateur de documentaires. C'est un citoyen engagé. C'est un homme de conviction. Et puis, on le découvre de différentes facettes. C'est-à-dire que, évidemment, le film relate quand même ses débuts, hein, ses débuts avec le groupe Abitibi, avec des images d'archives, mais on le voit chez lui. Alors, c'est sûr qu'on découvre comment qui il est avec ses chansons, parce que le film est ponctué de ses chansons aussi, on l'entend chanter, on le voit chanter également. C'est un documentaire qui est quand même plus intimiste. Et c'est sûr que c'est une façon de le connaître, mais par ses racines. Hein, parce que l'Abitibi l'a façonné, ses chansons, ses propos. Hein. C'est quelqu'un qui est imprégné par son territoire.
C'est tout à fait vrai. C'est comme ça, en tout cas, qu'on le ressent quand on l'écoute.
Oui, c'est un homme tout à fait authentique, hein, on ressent qu'il est vrai. Puis d'ailleurs, il a une longue entrevue avec lui, justement, il se livre de manière plus personnelle, alors, plus intimiste.
Justement, ça répondrait peut-être à mon autre question contraire qui était drôle, c'était, on a parlé de ceux qu'il ne connaissait pas, mais parlons de ceux qu'il connaissent beaucoup, en tout cas qui suivent ses chansons depuis le début, qui connaissent tout de lui. Qu'est-ce qu'ils ont à découvrir encore sur Richard Desjardins?
Ben moi, je dirais...
À ton avis?
Oui, à mon avis, c'est un aspect de lui que il se livre davantage. Vous savez, Richard Desjardins, ce n'est pas quelqu'un qui se livre dans les journaux. Pas vraiment. Il est quand même plutôt secret, mais ses opinions, ses valeurs, il les transmet par ses chansons et par ses documentaires.
Oui.
Il se livre de cette façon-là. Tandis que dans ce documentaire réalisé par Lisette Marcotte, qui est aussi une Abitibienne, par cette longue entrevue qu'il accorde, on le voit plus, il se livre davantage sur des aspects de lui, son enfance entre autres. On le voit parcourir les rues de son enfance et il parle beaucoup de son environnement, comment ça l'a façonné, parce que Rouyn-Noranda est une ville très particulière, c'est une ville de la mine, hein? C'est là où il y a la mine principale, et donc toute la mine vraiment a régné sur la ville pendant des années, et elle règne encore, et donc tout cet environnement-là l'a façonné. Ça a été un thème principal aussi dans ses chansons, hein, son territoire. Mais aussi, ça montre aussi comment il a été éveillé aussi à la protection de l'environnement, à la justice sociale. Il revient d'ailleurs sur un élément de son parcours. Vous savez, il a réalisé le documentaire L'erreur boréale, il y a plusieurs années. Mais comment ça l'a rendu... inquiet par la réaction qu'il y avait, parce que ça a suscité une grosse réaction de la part des industries forestières à l'époque, des travailleurs. Et comme c'est quelqu'un de très sensible, comme il l'avoue lui-même, ben, il est devenu très, très inquiet, très anxieux par rapport à cette réaction-là qui était très vive du milieu forestier.
Là, tu veux parler des critiques, ça, je voulais parler des critiques qu'il a eues, quoi.
Oui, parce qu'évidemment, il dénonçait l'industrie, comment elle était organisée à l'époque. Oui. Et puis, il était en tournée à l'époque. Alors, quand il est revenu, il ne savait pas de quelle façon il allait être accueilli, reçu. Mm-hmm. Et ça nous montre une facette de lui qui se livre de...
Qui est plus intime?
Oui, plus intime, en effet. Mm-hmm. Oui. Oui, ça montre sa vulnérabilité. Mais aussi...
Ah, tu m'as sorti le mot de la bouche.
Mais en même temps, son côté vulnérable, il y a un côté très force tranquille. Parce que quand il parle de son parcours musical, entre autres, de ses débuts, il dit que, dans le fond, lui, c'est un artiste qui ne fait pas de compromis au niveau musical. Hein. C'est quelqu'un qui est... Il ne veut pas plaire à tout le monde. C'est pas ça son but. Alors, il gagnait les petites salles et comme il dit, ben au début, il y avait peut-être 30 personnes dans la salle. Quand il revenait l'année suivante, il y en avait 60. L'année suivante après, ben il y en avait 120. Alors, pour lui, ça le satisfaisait. C'était la qualité des gens qui étaient là et non pas la quantité.
Ben oui.
Et qui lui faisait découvrir, apprécier son univers musical.
C'est pas un artiste glamour, comme on dit.
Non, mais c'est pas quelqu'un qui cherche absolument à plaire à tout le monde, ce qui arrive assez fréquemment.
Oui. De cette façon-là, qui se distingue, il est fidèle à lui-même. Il est fidèle aussi aux gens qui l'entourent, hein, à ses collaborateurs.
Alors, tu sais quoi? Avant de continuer, on va entendre une deuxième chanson de Richard Desjardins qui s'appelle « Développement durable ».
Ah, ben, vous savez, comme lanceur d'alerte, homme engagé, en voici toute une.
Alors, on l'écoute.
Après, je me suis perdu dans les chemins de compagnie, peinard bas par de vue, bel job que je me suis dit. Fallait que je me sorte de là, j'ai appelé la CEPAC. J'avais du temps devant moi, c'est fait que j'ai vidé un lac. Qui c'est que je vois l'Indien, pas de bonne humeur, pantoute, avec les oreilles dans le crin, il me dit tu détruis tout. Quand même que ça sera de ma faute, que c'est que tu veux que ça me fasse? Si c'est pas moi, c'est un autre qui va le faire à ma place. Moi tout, je n'ai des enfants, le laisse des beaux restants. Puis s'ils sont pas contents, le reste l'agonistan. Puis toi, toujours vivant, dis-toi que c'est mieux que rien. Puis si t'es pas content, ton gomme, d'où c'est que tu viens? J'pile, ben correct, ben correct. J'pile, j'sais plus quoi faire avec. Pas de problème, ski doux, si doux, quatre roues. J'suis dans le club des bains, même des fiumes pis bains de la broue. C'est pas dans mes talents d'expliquer l'existence. Ce cerveau a deux temps, ça pense pas, ça dépense. J'suis fier d'être ignorant, pis ça c'est un droit acquis. Pas besoin d'être savant quand t'as une carte de crédit. En fait, moi j'ai deux bacs, un bac vert, un bac bleu. Un pour les faces à claque, dans l'autre pas des quêteux. Pis laisse-moi pas tout seul avec un écolo. Une coupe de claque, sa gueule, pis ça va faire l'écho. Il t'offra pas une ronde avec ses beaux discours. Il voudra sauver le monde, il va sauver tout court. J'pile, j'sais plus quoi faire avec. Le développement durable, c'est pour ma grosse bedaine. Puis j'suis même plus capable de me voir le bout de la graine. J'suis dans le porte-papier, ben assis sur mon cul. Puis y'en a rien à chier, la toffe la FTQ.
Voilà, comme je le disais, développement durable. Donc, nous revenons avec Louise Véronique Sicotte.
Oui.
Écoute, j'ai le sourire aux lèvres d'avoir entendu cette chanson et ses textes aussi.
Beaucoup.
En revenant sur le documentaire, quel en est le fil conducteur, en fait?
Ben moi, j'en verrais deux.
Ah,
en
d'accord.
fait, il y a le territoire, il y a la ville de Rouen. Parce que tout au long du documentaire, on découvre aussi la ville de Rouen, son passé comme ville minière, sa réalité maintenant de ville qui est en effervescence hein, culturelle, ses habitants. Donc, on y fait référence tout au long du documentaire, avec un historien, avec un photographe, avec l'écrivaine Jeanne Mance de Lille, parce qu'il y a quand même plusieurs intervenants dans le documentaire. Et on apprend que c'est une ville qui était rythmée par la mine, mais aussi c'était une ville qui était très mélomane. Il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui aimaient la musique, entre autres le heavy metal hein, et toutes sortes de musiques.
Le heavy metal?
Eh oui.
Mm-hmm.
Surprenant. Et puis, c'était aussi une ville où il y a eu beaucoup d'immigrants de partout. C'était la deuxième ville après Montréal où il y avait le plus d'immigrants.
Peut-être pour travailler dans les mines?
Exactement. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, il y a un style, hein, le style Boomtown que j'ai découvert dans le documentaire, c'est l'architecture des façades des maisons. Alors, ça ressemble un peu à un village, une ville western.
Ah bon?
Le même type de façade. Alors, c'est très intéressant parce qu'on apprend, on voit également des vieilles façades de maisons dans le style Boomtown. Oui.
Ah ben, tu vois, ouais. Je ne connais pas du tout ce coin-là, moi, pour ma part, mais en voyant ce documentaire, j'en saurai un petit peu plus, même si je ne vais pas sur place. Est-ce que tu es déjà allé sur place, toi?
Non, mais ça donne le goût de découvrir cette région, absolument. Et bien sûr, il y a aussi toute la pollution hein, de la mine, hein, les résidus, alors c'est les conséquences hein, de l'exploitation minière. Et bon, ça c'est le premier aspect, le premier fil conducteur. Et le deuxième aspect, qui est le côté très artistique et absolument magnifique, c'est la réalisation d'une gigantesque murale. Et on assiste au développement, la concrétisation de cette murale faite par six jeunes muralistes, des femmes, qui se sont inspirées des chansons de Richard Desjardins pour produire cet ambitieux projet, en fait, parce que c'est 900 pieds de long, 12 000 pieds de carré de béton, et c'est une longue, longue façade en béton ondulé qui passe sous un viaduc. Et c'est un boulevard qui est très, très fréquenté. C'est le plus fréquenté, le plus connu, là, le plus populaire, en fait, de Rouen. Oui. Et puis, alors, ils se sont attelés à la tâche pour couvrir de murales ce grand espace. Et en s'inspirant de toute l'œuvre de Richard Desjardins.
Toute l'œuvre ou certaines chansons?
Ben, certaines chansons, en fait.
Parce que toute l'œuvre, ça fait beaucoup.
Ça ferait beaucoup, là.
Ça fait des milliers de kilomètres.
Disons des éléments phares.
D'accord.
Ouais. Mm-hmm.
Alors, on y retrouve un huard, un scaphandre, un char, couple enlacé, un ours avec un cœur. Et c'est absolument magnifique. Donc, on voit l'élaboration au fur et à mesure des semaines, durant tout l'été, de ces six femmes artistes qui vont peindre, vont illustrer en fait les œuvres de Richard Desjardins. Ils ont choisi Richard Desjardins parce que ça fait l'unanimité, hein, le chantre de l'Abitibi, hein.
Oui.
Et c'est pour lui rendre hommage hein, aussi.
Ben oui, puis c'est le moment. Rendre hommage du temps de son vivant,
oui,
on va dire aussi.
De voir sa réaction à la fin du documentaire, il est tellement ému. Et il y a un moment fort du documentaire qui est justement à la fin, lors de l'inauguration de la murale, avec une grande foule qui assiste à la murale, c'est que tout le monde chante la chanson « Liberté ».
Oh là là, ça doit donner des frissons, ça.
C'est très, très beau. Vraiment, vraiment, c'est magnifique. Et de le voir tout le monde qui chante ensemble, à l'unisson, cette chanson, a cappella.
Oui, ça doit être
c'est comme
beau.
Un hymne, hein? Un hymne à la liberté.
Alors, toi, en tant que Québécoise, et tu connais bien Richard Desjardins, enfin, tu connais bien son œuvre, pas mal de choses de son œuvre.
Oui, quand même.
Qu'en as-tu pensé de ce documentaire? Comment l'as-tu vécu, ressenti? Fais-nous part un peu de tes impressions.
Ben, je te dirais que je me suis sentie émue et fière que nous ayons un artiste comme celui-là au Québec. Et en même temps, ça m'a donné le goût de le redécouvrir,
ah,
de
voilà.
replonger dans l'œuvre musicale, dans l'œuvre cinématographique, et de me dire que cet homme-là a suivi une ligne de vie très forte. Il a suivi son chemin pour nous conscientiser à l'écologie, mais aussi à sa façon de parler des femmes dans ses chansons aussi. Hein.
Oui,
c'est,
ça aussi.
C'est plus qu'un hasard, en fait, que ce soit six femmes qui lui rendent hommage oui. par leur art visuel.
Ben, c'est un magnifique hommage. En même temps, est-ce que le documentaire, est-ce que quand une fois qu'on a vu ce documentaire, on a un regard encore plus profond sur certains des textes de ses chansons?
Ben, en fait, il y a des extraits de ses chansons qu'on entend. On le voit aussi chanter au Club Soda. Et c'est tout à fait magnifique, cette chanson-là. Il joue au piano accompagné d'une violoniste. C'est j'ai regardé aussi plusieurs vidéos de Richard Desjardins aussi par
la... Alors, tu sais plus si c'est sur le documentaire.
Je me souviens plus, mais ça donne le goût quand même de l'entendre. De se plonger davantage dans les textes.
Oui, d'aller de nouveau à sa rencontre, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est quelqu'un qu'on écoute. Enfin, moi, par exemple, si j'en juge à mon arrivée, c'était un pilier. Donc, on fait la connaissance d'un pilier, mais peut-être qu'on ne rentre pas de la même façon que lorsqu'on a vu un documentaire qui va beaucoup plus loin, où il s'offre, lui, beaucoup plus. Ce qui fait que, du coup, on a un autre regard sur ses chansons. Il me semble. Oui.
Et puis la manière dont elle décrit ce documentaire, j'ai très hâte de le voir. J'ai bien hâte de voir.
Mais en fait, c'est qu'on comprend ses racines.
Oui.
Parce que c'est beaucoup sur la ville de Rouen, l'Abitibi, le milieu aussi, les gens. Donc c'est pas seulement sur sa vie à lui, mais c'est sur l'ensemble de l'influence du territoire sur ses chansons, sur son art, sur ce qu'il est devenu comme citoyen.
D'accord. Où est-ce qu'on le voit, ce documentaire?
Ah, eh bien là, il va sortir en salle, demain.
Demain.
Et il va être au cinéma du musée, mais également à Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières,
oh, oui.
Les autres villes aussi en salle au Québec. Et en fait, le film est sorti au Festival de cinéma international d'Abitibi-Témiscamingue à l'automne 2019.
D'accord. C'est formidable. Eh ben,
oui.
Sache que aujourd'hui, on le voyait par tes yeux, par ton regard,
oui.
et que demain, Fulgence a la chance de faire une entrevue avec la réalisatrice.
Mais
hein,
oui,
Fulgence.
C'est formidable. Vous allez aller plus loin
oui,
encore.
Oui, oui, on la reçoit demain, Lily Rose.
Il va la recevoir, c'est chouette. Donc,
oui, c'est ça, chouette, ça sera comme un complément.
Oui, ça va être comme un complément, c'est ça.
C'est pour ça que je n'ai pas voulu aborder trop qui elle était, mais... Vous allez la découvrir et d'ailleurs elle intervient, c'est elle qui fait les entrevues dans le documentaire.
Mais c'est bien d'avoir ton avis. Pardon, Fulgence, excuse-moi.
Lily Marcotte, je voulais dire son nom.
Oui.
Oui, oui.
Donc
une femme qui vous le verrez demain dans l'entrevue, mais c'est une femme qui a été très déterminée.
C'est une admiratrice de Richard Desjardins?
Oui, 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 mais déterminée à faire ce documentaire.
Déterminée. Bon, alors tu nous mets un peu le goût d'en savoir un peu plus, alors, mais c'est surtout... pas à toi qu'on va le demander, on va lui demander à elle demain.
Et surtout qu'elle vient de la même région, de la même ville.
Oui, mais oui.
Alors, ça va être formidable. Donc, écoute, du coup, en discutant avec toi, puis en parlant de ce film que je n'ai pas encore vu, mais je me ferai un plaisir de voir très bientôt. Eh bien, Maurice, on a décidé avec Maurice Bolduc de remettre une autre chanson de Richard Desjardins qui s'appelle « Le cœur est un oiseau ».
Voilà.
Ça permettra de s'envoler avec lui là-dedans. Et puis, comme d'habitude, on te remercie beaucoup pour ce que tu nous amènes chaque fois, la passion que tu sais faire passer à travers tes textes. Et puis là,
c'était un plaisir de parler de ce film-là. Vraiment, là, Richard Desjardins, là, c'est un... C'est une icône et c'est quelqu'un justement de son vivant à qui on rend hommage. Et puis voilà. J'espère qu'il aura encore énormément de choses à nous transmettre.
J'espère aussi. Ouais. On a eu le goût avec toi. On va la voir demain avec la réalisatrice. Donc là, noblesse oblige, on va tous aller voir ce documentaire. Merci beaucoup Louise Véronique.
Merci à
bientôt.
À vous, Louise
puis on se quitte avec Richard Desjardins.
D'accord, au revoir.
Au revoir.
Par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, ils s'envolent encore. Plus haut, le cœur est un oiseau. Dans les yeux des miradors, dans les rues de nulle part, au milieu des déserts de froid, de faim et de fer, contre la tyrannie, il refait son nid. Plus chaud, le cœur est un oiseau.
Le cœur est un oiseau. Quelle belle chanson pour terminer cette émission.
C'est une de mes préférées de Richard Desjardins.
Belle chanson. Donc,
très belle pièce.
On aura, grâce à toi, la chance d'en reparler demain. Merci à Louise Véronique de nous avoir fait ce beau cadeau.
Oui, elle nous a fait découvrir un peu son univers. Et puis, bien. De toute façon, on a une idée, on sait de quoi on s'attend de mettre la patte de la réalisatrice, quoi.
Ah, ça va être son point de vue à elle. Ça va être tout à fait différent et très. Voilà. Et je suis très curieuse d'avoir le sien.
Le point de vue de la réalisatrice. Oui,
voilà.
C'est vrai.
Remercie ton invité.
Oui, Claudia Grenier.
Voilà.
Qui est la grande. Oui, comment. Son titre rapidement, là. Qui est de l'organisme Trajectoire Emploi, voilà. Bien sûr, bien évidemment. J'avais tous mes documents qui sont partis.
Merci
là-bas.
À Maurice Bolduc pour les musiques. Et puis à vous toutes et tous, eh bien, on vous dit à demain.
Oui, on se voit demain.
On reparle de Richard Desjardins demain.
Voilà.
Soyez avec nous.
Allez,
bye.
Bonne soirée. Bye bye.